Chapitre 82. 29 décembre 2017. Les genoux repliés sous le menton, nous sommes tous trois assis côte à côte au soleil, sur le plancher d'un ferry qui nous emmène à Palerme. Étienne à gauche, Nina au milieu, et moi à droite. Le dos collé au bastingage, nous nous laissons bercer par la douceur de l'air. La mer semble nous observer. Il y a 100 ans, c'était la guerre de 14-18. C'est dingue, Nina. D'où tu sors ça? Tu ne changes pas, et je kiffe, comme dirait mon fils. Pourquoi tu penses à la guerre de 14-18? Nina sourit en laissant entrer la lumière. Je sais pas, les tranchées, le temps qui passe. Moi, je l'ai trouvé long, le temps, quand on ne se souhaitait plus nos anniversaires, nous trois. Ça m'a fait un sacré silence dans la tête la première fois. Tous ces événements qui marquent une année, et puis plus rien. Alors qu'avant, on commentait tout. J'ai jamais eu la mémoire des dates, nous fait remarquer Étienne. Il allume une cigarette. Je vois que Nina meurt d'envie de stopper son geste, souffler sur la flamme du briquet, mais n'ose pas. Moi, je ne dis rien, comme d'habitude. Ce silence me fait du bien. Et je sais que ni Étienne ni Nina ne vont me demander pourquoi je me tais. C'est aussi cela, se connaître depuis toujours. Pourquoi vous m'accompagnez? Pourquoi vous faites ça pour moi? Nous questionne Étienne. Au fond, j'ai toujours été déloyale envers vous deux. Déloyale? S'exclame Nina. Et le 2 janvier 2003, le jour de ta visite au refuge, je ne sais pas ce que tu as fait, ni ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Mais de quoi parlez-vous? Du jour où je t'ai téléphoné, me répond Étienne. Tu étais à Cagliari avec ma sœur, juste à côté d'ici, tu te souviens? Comment pourrais-je oublier? C'est la dernière fois que je t'ai parlé jusqu'à il y a 4 jours. Vous vous êtes parlé ce jour-là? Me dit Nina en plaquant ses deux mains sur la bouche comme une petite fille prise en faute. En guise de réponse, je me contente de lui sourire et retourne à mon silence. Étienne ferme les yeux, allonge les jambes. Il se rappelle le regard d'Éliane Follon. Lily, comme l'appelait Nina, dans le bureau du refuge, deux billes vertes le scrutant, lui faisant comprendre qu'il était grand temps de s'occuper d'Emmanuel Damam pour que Nina retrouve un semblant de vie. En quittant le refuge, Étienne a appelé Adrien sans trop y croire. Il a décroché aussitôt. « Je pensais que tu avais changé de numéro de téléphone », sont les premiers mots qu'Étienne a prononcés. Tous deux ne s'étaient pas revus depuis leur violent affrontement à la brasserie La Lorraine.
« Pourquoi faire ? Plus personne ne cherche à me joindre à part Louise et mon ancien éditeur. »
« Je pensais surtout que tu me répondrais pas. »
« Si tu m'appelles, c'est pour me parler de Nina. Sinon, tu ne me téléphonerais pas. Tu as eu des nouvelles, c'est ça ?»«
Ouais. Je viens même de la voir. En vrai. »
« Où est-elle ?»«
Tu ne vas pas me croire. » La dernière fois qu'Étienne avait mis les pieds au domaine d'Amam, c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde de foot 1998. Pourquoi n'avait-il pas arraché Nina à sa vie ce jour-là? Quel empêchement! Elle avait déjà l'air si malheureuse. Ce 2 janvier 2003, Étienne a trouvé Emmanuel chez lui à 10h du matin, débraillé, amaigri et seul. Il portait une barbe de plusieurs jours, un t-shirt et un caleçon. Il faisait pitié. « Tu viens me souhaiter la bonne année ? » a-t-il ironisé en voyant Étienne. « Pourquoi tu te mets dans un état pareil ?»« L'amour » a-t-il ricané. « Tu sais où est Nina ? » « Oublie-la. » « Jamais. » « Pourquoi ? Si elle t'a quitté, c'est qu'elle veut que tu l'oublies. » « Peut-être, mais moi je veux la voir. » « Tu devrais laisser tomber, une bonne fois pour toutes. »« C'est pour me dire ce genre de conneries que t'es venue ?»« Il pourrait t'arriver des ennuis, de gros ennuis. »« Quel genre ?»« Du genre définitif. »« Tu me menaces ?» Emmanuel s'est mis à gesticuler de façon grotesque en chantant de plus en plus fort. « Étienne Beaulieu me menace ! Étienne Beaulieu me menace !» Je comprends pourquoi elle s'est barrée. C'est carrément flippant. Emmanuel a cessé de faire son numéro. Un long silence s'est installé, puis... « Alors, tu sais où est Nina ? Allez, dis-le ! Dis-le ! Dis-le, dis-le !» a crié Emmanuel en sautant comme un gamin hystérique. Étienne s'est assis sur le canapé. Tout se déroulait comme prévu. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi tu rappliques chez moi? Tu l'as vu? Tu sais où elle est? Mais oui, c'est ça, putain, avoue que tu sais! A beuglé Emmanuel avant de cogner le mur avec son poing. Putain de psychopathe! A sifflé Étienne entre ses dents. Emmanuel a d'un coup retrouvé son sérieux. Je t'emmerde, Beaulieu. Toi et ta morale. De toute façon, je vends mon entreprise et je pars. Où? Pas encore décidé. Loin. Très loin. Tu as raison. Il faut que j'oublie cette pute. Étienne s'est retenu pour pas lui écraser la tête en l'entendant insulter Nina. Tu sais que c'est moi qui ai emmené Clotilde Marais au lac le soir où elle a disparu? T'as raconté partout qu'elle n'était jamais venue, mais moi... Je sais que tu as menti. Je l'ai déposée juste à côté de ta moto. Étienne a fait mine de ne pas le croire. Mais l'autre l'avait touché en plein cœur. Il prêchait sans doute le faux pour savoir le vrai. Comment ce cinglé avait-il pu croiser Clotilde le soir du 17 août? Emmanuel a deviné le trouble d'Étienne, qui s'attendait à tout sauf à ça. Tu lui as fait quoi, cette pauvre gamine? A craché Emmanuel. Je ne suis pas venu pour parler de Clotilde, mais de Nina. Tu me crois pas, hein? Pourtant, je peux te décrire la robe qu'elle portait ce soir-là. Noire à pois blanc, avec des boutons devant. Des boutons rouges en forme de coccinelle. Et elle avait des tennis blancs aux pieds. Je m'en souviens parce que je me suis dit que du blanc, c'était pas une bonne idée pour traîner là-bas. Tu es un mytho, lui a rétorqué Étienne. Tout le monde sait ce qu'elle portait. C'était sur les avis de recherche. Et puis qu'est-ce que tu aurais fichu à cet endroit? Il y a une piscine olympique au milieu de ton jardin. T'as jamais traîné au lac? Emmanuel Damam a eu un sourire mauvais et malheureux à la fois. Étienne était pris entre pitié et aversion. Le dandy qui n'avait plus rien d'élégant souffrait manifestement le martyr et ne contrôlait rien. Il regardait Étienne sans le voir, perdu dans ses pensées. C'est la première fois que je réalise qu'il y a le mot « beau » dans ton nom. Le jour de l'enterrement, je vous ai vu arriver chez le grand-père de Nina dans l'après-midi, toi et le PD. J'ai attendu, et puis t'es reparti tout seul. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai suivi. Je t'ai vu entrer, ressortir de ta maison, monter sur ta moto. Je n'avais qu'une envie, t'envoyer valser dans le fossé. J'étais derrière toi, pas dans l'Alpine, dans une bagnole de la société. J'ai failli te rentrer dedans plusieurs fois. Adieu, Beaulieu. Si je l'ai pas fait, c'est à cause du grand-père de Nina. Ça aurait fait trop de morts à la fois. J'ai eu peur qu'elle ne le supporte pas. Après, je t'ai vu t'allonger dans l'herbe au bord du lac, enfin, de la décharge publique, et t'enfiler du whisky comme un pochetron. Et puis j'ai eu un moment de lucidité. Je me suis demandé ce que je fichais là. En rentrant à la Comelle, j'ai croisé Clotilde Marais qui marchait au bord de la route. J'ai fait demi-tour et je l'ai emmenée. Elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec toi. Ça se voyait comme le nez au milieu du visage qu'elle était folle amoureuse. C'est toi qui as fait du mal à Clotilde ? J'ai entendu dire Étienne. Le seul mal que je lui ai fait, c'est de la déposer à côté de ta moto. Tu es tout sauf Claire. Alors ne viens pas me faire la morale. T'es resté à côté de nous ? Tu nous as espionnés ? Non, je suis rentré ici. Menteur. Je me fichais de vous deux. La seule chose qui m'intéressait à ce moment-là, c'était Nina. Il fallait que je sois à la maison au cas où elle aurait besoin de moi. À l'époque, tu sais bien, il n'y avait pas de portable. On attendait des heures à côté du téléphone fixe. Et le miracle a eu lieu. Alors que je pensais ne jamais la revoir, elle m'a appelée, demandé que je vienne la chercher chez elle. Elle était toute seule avec le PD. Arrête d'appeler Adrien comme ça. Pourquoi? T'as le béguin pour lui? Nina ne te suffit pas? Emmanuel s'est tordu de rire. Un rire douloureux qui lui a déformé le visage. En parlant de Clotilde Marais, tu sais que c'est moi qui téléphone régulièrement aux flics pour leur dire qu'elle était avec toi ce soir-là. Étienne s'est retenu pour ne pas lui sauter dessus. Cet homme n'était pas fou, mais pervers, manipulateur. Cependant, cet aveu le soulageait presque. Il avait souvent pensé que l'inconnu qu'il dénonçait à la gendarmerie était son propre père, ce père qui ne l'aimait pas, au point peut-être de l'accuser du pire. « C'est même moi qui ai appelé la télé quand ils ont reparlé de l'affaire, à continuer de pérorer Damam. J'ai toujours rêvé de te voir finir en tôle. Quand je pense que t'es devenu flic, tu es une imposture, Beaulieu. Allez, avoue que tu as tué Clotilde Marais. Oubliant toute stratégie, Étienne n'a pas pu s'empêcher de lui balancer. Je ne suis pas dingue, je ne terrorise pas les filles, moi. D'ailleurs, aucune ne m'a jamais quittée, contrairement à toi. Emmanuel a saisi une poêle sur la gazinière et frappé Étienne avec une telle violence qu'il a perdu connaissance. Étienne n'avait rien vu venir. Quand il a recouvré ses esprits, dans une mare de sang, son arcade sourcilière était ouverte sur 2 cm. Emmanuel n'était plus là. Étienne a jugulé l'hémorragie, fou de rage contre lui-même. Pourquoi avait-il provoqué ce taré ? Étienne l'a cherché dans toutes les pièces de la maison. Il a même ouvert les placards de la chambre et constaté que toute trace du passage de Nina avait été effacée. En même temps, se disait-il, tant pis s'il s'est enfui. Cette agression était une veine. Violence sur un représentant de l'autorité publique, Étienne pouvait le faire coffrer, à condition de lui mettre la main dessus. Damam était là, dans la cuisine, debout près de la crédence, livide, absent, un verre d'eau à la main. C'était le bon moment pour tout balancer. Je sais où est Nina. Emmanuel a regardé Étienne comme s'il était le diable. Ce qu'il attendait depuis plus de 2 ans, qu'il cherchait comme un chasseur enragé, il semblait ne plus vouloir l'entendre. Comme si toucher au but faisait s'écrouler sa quête. Il s'est assis, son verre d'eau à la main. Un condamné qui attend son verdict. Et Étienne a parlé avec douceur et condescendance, en choisissant ses mots. Je viens de retrouver la trace de Nina grâce à un indice. Elle habite à 300 km d'ici. Et je crois qu'elle est heureuse. Elle vit avec un homme de 10 ans son aîné. Ils ont un enfant. Un petit garçon de 9 mois qui s'appelle Lino. Ils vont en avoir un deuxième au printemps. Nina a rencontré son compagnon au travail. Emmanuel a eu envie de hurler. « Mais je suis son mari !» Avant de réaliser que non, il n'était plus rien. Étienne a poursuivi, avec la sensation d'enfoncer de plus en plus profondément la lame d'un couteau. Elle travaille dans un atelier de restauration de tableaux. C'était son rêve. Tu sais, elle a toujours aimé peindre. Je suis désolée. Je ne t'ai jamais aimée, Damam. Mais tu mérites la vérité. Je vois bien que tu vas mal. À cause de quelqu'un qui n'existe plus. Nina a fait une croix sur toi. Sur nous. Adrien, mes parents. Moi, la comelle. Nous ne la verrons plus jamais. Où vit-elle ? A eu la force de demander Emmanuel. À Annecy. Une chouette maison au bord du lac. Je suis allée vérifier. Ça m'a fait un choc. Je l'ai vue de loin, enceinte, belle. Elle promenait son fils dans une poussette, un chien au bout d'une laisse. Elle a tourné la page. Fait comme elle. C'est terminé. Emmanuel s'est allongé en position fœtale, les genoux repliés contre la poitrine, et s'est mis à pleurer. Lui qui imaginait sa femme perdue, seule, repentante et tremblant de peur. Ce scénario-là, il ne l'avait pas envisagé. Un autre homme, 2 enfants, un chien. Elle s'était cloisonnée dans une nouvelle vie. La retrouver, la tuer, se suicider lui est tout à coup apparu comme une incongruité. Nina, sa Nina, soumise et terrifiée, stérile et alcoolique, était morte et enterrée. La fille d'Annecy avec 2 gosses, ce n'était plus elle. En remontant dans sa voiture, Étienne a rappelé Adrien pour lui annoncer le succès de son plan. Adrien n'a pas répondu. En sortant du refuge et avant qu'Étienne aille chez Emmanuel Damam, Adrien et lui avaient réfléchi de concert au téléphone. Il fallait trouver une solution pour libérer Nina de son mari. Le faire tuer, impossible. Le tuer, pas question. Le pousser au suicide en lui faisant croire que Nina était morte, ça ne marcherait pas. Lui donner une fausse adresse en Polynésie en espérant qu'il ne reviendrait pas, fantasque. Et Adrien a trouvé. Tout simplement lui faire croire que Nina s'était reconstruit une vie heureuse, avec un mari et enfants comme bouclier. Adrien a dicté les mots à Étienne. Le lac d'Annecy, l'amoureux, les enfants, le chien, la poussette, le printemps, la restauration de tableaux, tout ce que Damam n'avait pas été capable d'offrir à sa femme. Il n'oserait jamais se confronter à cette réalité et abandonnerait peut-être toute idée de la retrouver. « On voit que t'écris des bouquins, toi !» a jubilé Étienne. « C'est une putain d'idée !» Après cela, Adrien et Étienne ne s'étaient plus jamais vus, ni parlés.